Mesdames, Messieurs, au nom de la Société Genevoise de Généalogie, je vous souhaite la bienvenue dans cette maison du général Guillaume-Henri Dufour. Cette soirée est organisée conjointement avec Genève Humanitaire, présidée par M. Roger Durand. On travaille quand même souvent la main dans la main. Donc, je vous souhaite la cordiale bienvenue. Je lui cède tout de suite la parole. Et je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouvera à l'issue de la conférence pour le verre de l'amitié dans la salle qui se trouve derrière vous. Merci et à tout à l'heure.
Merci Alain. Merci mesdames et messieurs d'avoir fait le déplacement. Mais vous avez eu raison parce que nous allons entendre une conférence, une présentation de premier ordre pour plusieurs raisons. La première, c'est que Herminie Clavier, moi j'ai envie de dire Herminie Monnoir, je dois vous avouer, parce qu'elle est morte Monnoir. Mais Herminie Clavier, ensuite Courrier, et finalement Monnoir, est une personnalité hors du commun qui, je le crois, est très mal connue, en tout cas à Genève, dans nos milieux. Alors, grâce à Laurence Winthrop, qui est une arrière-petite fille, mais en ligne directe d'Herminie Clavier, Monnoir, nous allons avoir une présentation captivante d'une personnalité tout à fait surprenante, donc qui a joué un rôle à nos yeux de jeune voix, mais elle a joué d'autres rôles décisifs, puisqu'elle a été l'égérie d'un des fondateurs de la Croix-Rouge. Elle était plus âgée que lui, nettement une dizaine d'années de plus. Elle a eu un parcours préalable d'une richesse sentimentale, j'allais quasiment dire sensuelle, tout à fait étonnante. Et elle nous présente donc ce jeune médecin de la très bonne société genevoise, appartenant à une dynastie de médecins. On l'avait vu dans le cas justement de la Société genevoise de généalogie prestigieuse de niveau européen. Bref, c'est une personnalité magnifique qui nous permet aussi d'avoir un éclairage tout à fait complémentaire, très riche, très surprenant, sur Théodore Monnoir et sur le personnel qui a fondé le Comité international de la Croix-Rouge et qui n'était pas du tout composé de statuts de commandeurs sérieux, rigides et tout. Les cinq fondateurs sont des personnalités extrêmement riches et grâce à vos travaux, madame, nous découvrons une palette totalement insoupçonnée de Théodore Monnoir. Donc, Laurence Winthrop est écrivain maintenant, et elle a été pendant 50 ans dans les relations publiques de grandes entreprises, et vous verrez à son style qu'elle sait écrire, qu'elle sait communiquer. Et puis, elle a publié un certain nombre d'ouvrages, et ce qui est aussi intéressant, souvent en collaboration. Hein, parce que votre premier ouvrage, Laurence, c'est À moi, qui a été fait en collaboration avec notre ami Luc Webel, qui était un écrivain que je n'ai pas besoin de vous présenter. Ensuite, elle a participé à un ouvrage de nature historique intitulé « Raconte-moi Marianne, les 36 000 jours des 36 000 communes françaises naturellement ». Donc la patte historienne surgit à ce moment-là. Avec son époux, M. Michel Winthrop, qui est parmi nous. Où êtes-vous, M. Winthrop ? Ah, bon, enchanté, ça me fait plaisir. Donc, avec son époux, Laurence Winthrop a écrit une biographie, Arthur Grumiaux, gloire de l'école belge de violon, c'était en 96. Et là aussi, publié un petit ouvrage de piété familiale, dédié à Pierre Bertrand, qui est votre propre père, oui, c'est juste. Et l'histoire de Genève, donc Pierre Bertrand était un monument de l'histoire genevoise, surtout de l'histoire régionale, d'anecdotes, etc. Et c'est un ouvrage qui est apparu en 2000, l'a beaucoup écrit dans la presse, c'était un communicateur de premier ordre. Et puis, elle travaille sur 10 ballades sur les pas de compositeurs qui sont à paraître.
Oui.
C'est ça, exactement. Mais surtout, elle est l'auteur d'une biographie captivante. Et je vais donc maintenant donner la parole à la dynamique patronne des éditions de la Baconnière, qui s'est lancée, elle aussi, dans une aventure, parce que même si un livre est excellent, l'éditer et le diffuser, c'est toute une aventure. Madame Gudin, vous avez la parole.
Bonsoir. Je
suppose que beaucoup d'entre vous connaissent le nom des éditions La Paconnière, qui est une vieille maison d'édition suisse, née en 1927 à Neuchâtel, qui a été très neuchâteloise pendant au cours du XXe siècle, puisqu'elle est fondée par Mannhauser et que beaucoup d'intellectuels neuchâtelois, puis suisses, puis français, y ont publié des textes extrêmement importants. Et elle a pris tout son essor international pendant la Deuxième Guerre mondiale, puisque les Français sont venus beaucoup publier en Suisse, tous ceux qui ne pouvaient plus publier en France, et notamment aux éditions de La Paconnière, qui a créé cette, une des collections les plus connues et reconnues, qui sont les Cahiers du Rhône, dirigés par Albert Béguin. Et puis, énormément de collections intellectuelles, des essais philosophiques, des essais sur la musique, des essais historiques également, énormément. Et La Paconnière a été mise en veille pendant une quinzaine d'années pour des raisons économiques. Elle a été rachetée par un petit groupe d'éditeurs ici à Genève, les éditions Médecine et Hygiène. Et j'ai eu la chance de reprendre ça il y a 3 ans. Je relance donc La Paconnière avec, à notre époque contemporaine, en relançant certaines collections, dont la collection Langage, justement, de critiques littéraires, une collection aussi de critiques musicales, et puis des textes également sur l'histoire locale, l'histoire des femmes aussi. Et Madame Wintrop a eu la grande gentillesse de me confier son manuscrit. J'espère que vous apprécierez à la fois son intervention et son livre. Qui est extrêmement délicieux à lire, je tiens à le dire quand même, c'est une lecture vraiment assez très délicate et très douce. Et voilà, ça fait partie d'un certain nombre de livres sur l'histoire locale. Je vais publier aussi une histoire de Genève de Louis Binz. J'ai publié par ailleurs, il y a 1 an et demi, l'histoire de Marguerite Naville, donc du coup l'épouse d'Édouard Naville, l'égyptologue. Rédigé par trois de ses descendantes, pas tout à fait directes, mais en tout cas deux étaient directes. Il faut. Enfin, je précise parce que. Et donc, voilà, et à part ça, La Paconnière s'est ouvert un petit peu aussi au romanesque. Mais comme c'était rapide de présentation, en tout cas, nous serons là avec les livres, ma collègue Gabrielle Wagner. Et puis, si vous voulez voir, il y a également des petits catalogues si ça vous intéresse. Donc voilà, en tout cas, bravo à Madame Wintrop et je lui cède la parole.
Je vais être aussi, madame.
Aussi, oui, alors mon site internet c'est édition-paconnière.ch, mais vous tapez La Paconnière dans Google.
La Paconnière.ch,
voilà.
Bon. Bonsoir à tout le monde et je remercie beaucoup M. Besançon et M. Durand d'avoir organisé cette soirée pour moi et pour Herminie. C'est une occasion de la faire sortir d'un cadre dans lequel je l'ai vue pendant toute mon enfance. Par contre, c'est vrai qu'elle a été l'épouse de Théodore Monnoir à la fin de sa vie et que vous connaissez le docteur Théodore Monnoir à la fin de sa propre vie lorsqu'il était membre de la Croix-Rouge. Et si je vous raconte l'histoire d'Herminie, c'est l'occasion de vous faire remonter dans le temps parce que il nous faut aller jusqu'en 1814. Ce n'est pas la date de sa naissance, je vous rassure, je ne vais pas les citer les unes après les autres, ces années. Mais la date de 1814 a un sens pour elle et pour la France. Parce que pour la France, 1814, c'est une époque charnière. Napoléon est en train de perdre ses batailles contre l'Europe. Les alliés se sont coalisés pour l'obliger à abdiquer. Ils sont en train d'envoyer les troupes des Prussiens, des Anglais, des Russes et des Autrichiens à la frontière du nord et de l'est de la France. Et c'est une période où tout le monde s'inquiète, qu'est-ce qui va se passer, les troupes vont arriver sur Paris, est-ce que Napoléon va abdiquer, les alliés eux-mêmes ne savent pas très bien s'ils vont faire, s'ils vont laisser Napoléon ou plutôt son héritier avec la régence de l'impératrice le temps qu'ils deviennent majeurs, est-ce qu'ils vont faire revenir le frère de Louis XVI, enfin c'est une période assez compliquée. Mais en tout cas, tout le monde aimerait vraiment que la paix arrive parce que c'est extrêmement pénible, ces 15 années de guerre et de privation. Et donc, les Parisiens, comme les Français, voient arriver les troupes avec un certain soulagement, les troupes étrangères. Et parmi eux, il y a la famille Clavier. La famille Clavier vit à Paris. Monsieur Clavier, Étienne Clavier, est un avocat, un juge. Il a commencé à travailler à la fin du règne de Louis XVI. Lorsque Napoléon est arrivé au consulat, il y a eu un complot qui devait être jugé, qui avait été fomenté contre lui. Et on a demandé au juge, Monsieur Clavier, de bien vouloir condamner le général Moreau à mort, tout en lui disant « Vous en faites pas, Napoléon va le gracier après, donc allez-y. » Mais M. Clavier avait une autre idée de la justice et il a refusé de le faire. Donc il a préféré après s'éclipser de Paris par prudence et puis d'aller à la campagne où ils avaient une propriété au sud de Fontainebleau. Et là, il a pu s'adonner à sa passion qui était la traduction d'auteurs grecs et latins, et puis voir grandir un peu ses filles qui avaient déjà quelques années. Et une fille s'appelait Herminie et l'autre s'appelait Esther. Et en 1800, donc après, quand Napoléon a été couronné empereur et que la situation s'est un peu calmée, il est revenu sur Paris. Et il a continué à travailler son grec, et très, très heureux. Et il travaillait sur la traduction de Posianas. Et il avait un ami qui était extrêmement fidèle et très bon traducteur également de grec, qui s'appelait Paul-Louis Courier, il était plus jeune que lui. Alors, nous sommes maintenant en 1814. La famille Clavier habite Paris. Étienne Clavier, on l'a situé. Il avait une fille aînée, Herminie, qui avait 18 ans et qui était une jeune fille intéressante, avec du caractère, un peu timide, renfermée, mais surtout une excellente peintre. Elle travaillait avec Vigée Lebrun dans son atelier au Louvre. Elle était extrêmement douée et elle travaillait les portraits de sa famille, de son père, de sa sœur et d'autres personnes dans son entourage. Elle avait une sœur cadette qui s'appelait Esther, qui avait un petit nom de Zaza, qui était elle, qui avait 15-16 ans, qui était un peu embêtée d'être toujours la petite sœur, mais malgré toutes les difficultés qu'elles ont rencontrées toute leur vie, elles sont toujours restées très attachées l'une à l'autre. Alors, je parlais d'Herminie qui était un petit peu discrète. En fait, je crois qu'elle ne pouvait pas trop prendre de place parce que la place était très occupée par la mère. Madame Clavier était une forte personnalité, elle était très organisatrice, mondaine, très au courant de la politique. Et elle était, elle tenait les cordons de la bourse, elle tenait ses filles bien comme il fallait, et puis son mari aussi. Donc ça marchait assez bien tout ça. Donc en 1814, Napoléon finit par abdiquer, nous sommes en mars 1814, et donc parmi les amis de Paul-Louis Courier, d'Étienne Clavier qui viennent souvent le voir, il y a justement ce Paul-Louis Courier dont j'ai esquissé un peu la présence et qui en fait lui rentrait de 17 années de guerroiement en Italie et lui il n'avait jamais été intéressé à faire carrière, à avoir une situation enviable, de devenir général avec une pension, des décorations, tout ça ne l'intéressait pas du tout. Ce qui l'intéressait c'était de pouvoir traduire du grec. Et il était toujours intéressé à être le plus près possible d'un couvent, parce que dans les couvents, il y avait toujours des bibliothèques. Et dans les bibliothèques, il y avait toujours des ouvrages latins ou grecs. Et c'est son grand plaisir, c'est de pouvoir travailler là-dessus. Et il avait publié justement la traduction de Daphnis et Chloé de Longus, la version originale. Et il se retrouve à Paris, un peu désœuvré, seul, il n'avait pas de famille. Et il va voir son ami Étienne Clavier, et puis le voilà qui tombe amoureux de Herminie. Lui avait 42 ans, elle avait 18 ans, et il tombe vraiment fou amoureux d'elle. Et elle, vous allez me dire, elle a 18 ans, elle a l'habitude de vivre dans un cercle bourgeois, un peu conventionnel, autour d'elle et avec ses parents. Et elle voit cet homme arriver avec indépendant, avec des idées intéressantes, avec des perspectives de réflexion, une idée un peu large des choses qu'elle ne trouvait pas dans son entourage direct. Et la voilà qui tombe amoureuse de lui aussi, avec un caractère déterminé. Donc finalement, les parents qui étaient un peu inquiets acceptent ce mariage. Et de mars à mai, où elle est mariée, 2 mois, voilà, les voilà mariés, ça s'est très vite passé. Napoléon a abdiqué, les troupes étrangères sont arrivées à Paris, et la paix s'est installée. Donc le seul problème qui commence à germer, c'est que lui, il n'a pas de parents, il a une propriété que lui a laissée ses parents en Touraine, mais il ne s'est pas trop intéressé à cette propriété parce que c'est loin et puis tout se passe à Paris, c'est à Paris qu'il faut être. C'est un homme qui est en contact avec les journaux, il donne des articles d'opinion, il a beaucoup à faire et notamment d'aller faire sa cour à Herminie aussi. Et une fois marié, il s'installe dans un petit logis, les problèmes financiers arrivent assez vite parce qu'il a très peu de moyens. Et qu'il faudrait qu'il aille s'occuper de cette propriété en Touraine pour la vendre parce qu'elle n'est pas si importante pour vivre des revenus. Et donc c'est une situation déjà un petit peu difficile entre la Touraine et Paris. Et finalement, après pas mal de tergiversations, ils finissent par trouver une propriété, une forêt, une propriété à acheter, qu'ils pensaient acheter avec la vente de cette propriété qu'ils avaient déjà, mais qui ne pouvait pas se vendre, et avec la dot d'Herminie, mais Madame Clavier n'arrivait pas à lâcher l'argent pour cette dot. Donc ils ont emprunté à droite et à gauche pour arriver quand même à avoir ces propriétés, avec l'idée surtout d'être sur place pour pouvoir en tirer des revenus et en vivre. Et lui pensait qu'il pourrait écrire à la campagne et venir de temps en temps à Paris. Mais voilà que le gouvernement se complique, Louis XVIII est assez raisonnable, mais autour de lui, vous avez des tas d'ultras qui sont plutôt la cour qui est revenue et qui voulait revivre comme du temps de Louis XVI et donc faire pression. Et donc le peuple s'énerve parce qu'ils ont l'impression de perdre les avantages qu'ils avaient gagnés à la Révolution. Donc tout ça donne des idées à Paul-Louis Courier pour pouvoir écrire des articles là contre, s'insurger contre cette pression politique. Et donc une fois là-bas, finalement, il s'aperçoit qu'il faut qu'il revienne à Paris pour écrire ses pamphlets, pour être au cœur des problèmes politiques et puis se faire connaître, etc. Et il laisse sa femme, qui a 22 ans, à la tête d'une propriété immense qu'il faut gérer avec des problèmes sans fin, une forêt dont il faut vivre, ça veut dire qu'il faut préparer des coupes, il faut avoir des équipes de bûcherons, il faut avoir des marchands qui viennent voir, qui achètent, qui ne payent pas. Et tout est comme ça, et il faut rembourser les emprunts, et les emprunts arrivent vite, et l'argent n'est pas là. Et les paysans qui louent des terres, ils ne payent pas les terres, mais ils coupent le blé, tout ce qu'ils ont, dont ils ont besoin. Et en fait, la paysannerie de l'époque était vraiment aussi en difficulté parce que toutes les troupes napoléennes qui étaient passées, revenues, repassées, puisque Napoléon après est revenu une autre fois, ils se servaient sur place et ils prenaient les chevaux, ils prenaient les fils pour pouvoir faire des soldats. Et donc ça les laissait assez amoindris et ils avaient besoin pour le peu d'argent qu'ils pouvaient avoir pour acheter de la semence et puis pouvoir quelque part vivre un minimum. Donc la situation était très compliquée et Herminie, qui était une femme peintre, une femme musicienne, une femme de Paris, la voilà dans un endroit certes beau, mais avec des responsabilités qui n'étaient pas du tout celles qu'elle aurait envisagées. Mais ceci dit, elle s'est mise avec beaucoup de courage avec, à apprendre tout cela, à se débrouiller avec des directives de son mari qui arrivait tous les soirs par lettre. Fais ci, fais ça, va voir tel, prendre l'argent là, place là, etc. Et elle a commencé à vraiment un peu dépérir dans cette situation. Elle n'est pas revenue sur Paris. Il n'y avait pas d'argent pour ça. C'était vraiment tellement calculé et tellement chichement vécu qu'elle n'arrivait même pas à peindre, elle n'arrivait pas à jouer du piano parce qu'il n'y avait pas de piano, et elle avait finalement une seule robe sur elle. Il n'y avait pas de quoi avoir une autre robe. Et de demander sa dot à ses parents, son père venait de mourir en plus, donc c'était chaque fois sans résultat, donc il n'y avait pas d'espoir d'améliorer la situation. Heureusement, un fils est né en 1820, Paul-Étienne, qui était vraiment pour elle un rayon de soleil, et pour son père aussi, qui a passé là quelques mois en famille. Et pour elle, c'était vraiment ce qu'elle attendait, c'était pouvoir vivre une vie de famille et l'hiver a aidé à cela. Mais dès que le printemps est arrivé, il y avait l'imprimeur qui réclamait Paul-Louis Courier à Paris. Donc il est reparti, il l'a laissé seul et lui envoyait des lettres pour dire quoi faire. Et puis comme ses pamphlets avaient beaucoup de succès, finalement le gouvernement le suivait, lui a fait un procès parce qu'il avait un peu exagéré, comme c'est le normal pour les pamphlets, et ils l'ont mis en prison aussi en son tour, trois mois de prison pour lui à Sainte-Pélagie à Paris, et c'est une étape qui pose à Herminie un problème, parce que d'un côté, elle comprend très bien la position de son mari, avec une certaine droiture, une certaine idée de la justice, c'est celle que son père aurait soutenue, bien qu'il soit mort, elle le comprenait aussi. Mais en même temps, elle n'en pouvait plus d'être seule dans cette immense campagne avec un travail fou, beaucoup de gens à diriger. Et alors dans ce personnel, il y avait beaucoup de paysans, des laboureurs. Il y avait un laboureur qui était beau et sympathique et beau et avec des grands yeux bruns et une belle dentition. Et qui s'occupait bien d'elle, et il est arrivé ce qui devait arriver. Elle s'est sentie un peu mieux, on la comprend, mais du coup, elle qui tenait les comptes, qui était vraiment très scrupuleuse, qui organisait tout comme cela, comme sa mère l'aurait fait, elle a commencé à les laisser les choses. Et Paul-Louis Courier, quand il revenait, il trouvait que c'était bizarre quand même, ses comptes qui étaient mal tenus, et c'était quand même un problème. Et puis à un moment donné, voilà qu'Herminie se trouve enceinte. Et le pauvre Paul-Louis Courier était complètement désespéré parce qu'il a pris la situation par son garde-chasse. Et c'était pour lui un effondrement. Il a beaucoup souffert et il était extrêmement perplexe et plus quoi faire. Et Herminie non plus d'ailleurs, mais c'est des situations de crise qu'on peut comprendre. Et donc voilà, enfin Madame Clavier, la mère, qui n'est jamais venue avant, qui enfin arrive pour s'occuper un peu de sa fille, lui remonter le moral, parler à son gendre, mais malgré ses essais, ses tentatives, elle est repartie sans avoir rien pu faire. Et le deuxième bébé est né. Et il s'appelle Esther également, comme la mère. On ne comprend pas pourquoi il y a des prénoms féminins pour des hommes, des prénoms masculins pour des filles. C'est une question pour des généalogistes, ça. Bon, alors, ce petit Esther est né et on l'a mis chez une nourrice dans un village à côté. Et puis, la situation devenait de plus en plus difficile entre Paul-Louis Courier et Herminie. qui du coup a décidé de repartir à Paris. Sa mère l'incitait beaucoup à revenir à Paris pour avoir un peu de calme et de distance. Elle est partie à Paris avec son premier fils, Paul-Étienne, qui avait 4 ans. Et donc, Paul-Louis, lui, revient aussi à Paris, il prend une chambre chez l'habitant, comme il le faisait toujours quand il était célibataire. Et puis, il se dit, qu'est-ce que je vais faire avec la charbonnière? Il espère qu'Émilie va lui revenir, mais il se dit quand même que c'est bien de mettre la charbonnière en gérance. Et il retourne là-bas pour mettre les choses au point. Mais son garde-chasse était tellement un problème pour lui. Il était ivrogne très souvent, il n'était pas fiable. Il se dit, là, il me faut avoir quelqu'un de sérieux. Donc, il met un avis dans le journal pour dire, je cherche un garde-chasse. Mais il ne l'a pas avisé, celui qui était en poste. C'était pas très sympathique. Et donc, le 10 avril, l'article paraît dans le journal local. Et... il y a une assemblée ce jour-là, une assemblée, c'est une espèce de fête du village, donc tout le monde part là-bas à la fête, et Paul-Louis Courier, lui, s'en va de la maison avec sa canne, et puis il part. Et puis le soir, quand tout le monde revient, eh bien le maître n'est pas là. Alors où est-ce qu'il est? On le cherche dans son bureau, on le cherche chez les voisins, il n'est pas là, on l'appelle partout, la nuit tombe, il n'est pas là. Donc les gens sont un peu inquiets, mais bon, le lendemain matin, ils se disent quand même, il faut le retrouver, et ils vont chez le maire pour faire une battue dans la forêt. Et là, ils le retrouvent mort, face contre terre, et avec un énorme trou sur le flanc. Et donc, la justice se met en route, et on s'aperçoit qu'il a été assassiné. On pouvait déjà le savoir, mais les médecins l'ont confirmé. Et le choc, donc on ramène le corps, on l'enterre, et Madame Courier à Paris est bien sûr informée, et on l'a pris de venir. Donc c'est vraiment un grand choc pour elle, et elle part là-bas avec sa mère et avec le général Axo, qui est un ami fidèle de son mari. Mais lui, il pense, il a tellement quiquiné le gouvernement, il y a eu un ordre de Paris, probablement. On n'en sait rien, on va là-bas, et donc la justice se met en route, interroge tout le monde, mais personne ne connaît la situation. C'était un patron génial, alors qu'en fait, il était odieux avec le personnel. Non, si on savait quelque chose, on vous le dirait. Donc c'est un petit peu la... personne ne dit rien. Et donc, elle est interrogée, bien sûr, Herminie, et puis elle dit, mais moi, je pense que c'est Frémont, c'est le seul qui pouvait approcher mon mari sans qu'il soit inquiété. Et donc, si, il était vraiment pas fiable, il était souvent ivrogne, il y a bien des possibilités que ce soit lui. Donc, tout le monde repart à ses occupations avant que le procès ait lieu. Et Herminie essaye de trouver des preuves, parce que c'est ce qu'il faut. Et en fait, elle trouve des indices, des preuves, du plomb qui a été fondu, qui pourrait être de la taille de la balle qui a servi à tuer, à assassiner son mari. Ce sont des indices, mais il n'y a pas vraiment de preuves. Et quand le procès arrive, toute la presse en a parlé, parce que Paul-Louis Courier était très connu. Et à Tours, il fait chaud, la salle est pleine de gens qui viennent là. Les journalistes, il y en a 20, 30 qui sont là. Et Madame Courier est témoin avec beaucoup d'autres. Et en fait, sa vie personnelle a été un peu étalée, et donc elle devient une héroïne. Donc quand elle témoigne, tout le monde se lève pour aller la voir, comment elle est, cette gourgandine, etc. Et on s'aperçoit d'une femme extrêmement fière, très déterminée, intelligente, qui répond extrêmement... avec intelligence aux questions qu'on lui pose. Et quand on lui parle de sa vie privée, elle dit, mais écoutez, mon mari et moi avons toujours eu la même intelligence pour nous occuper de la charbonnière, etc. Donc elle est vraiment très étonnante. Et finalement, comme il n'y a pas de preuves, eh bien monsieur Frémont, qui avait été inquiété, il n'est pas coupable. Donc le procès se termine comme ça. Herminie reprend la charbonnière, mais elle doit aussi décider de passer à autre chose, parce que tous ces problèmes d'argent étaient liés au fait que la charbonnière était acheté, mais avec des emprunts, et qu'ils avaient payé les intérêts, mais que le capital lui-même n'avait pas été payé. Donc, quand les 10 ans arrivent, il faut rendre la propriété à son précédent propriétaire, puisque seulement les intérêts avaient été payés. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et donc, Herminie a pu vendre plus tard la forêt, parce que ça, c'était un capital dont elle avait besoin pour l'éducation de ses deux fils. Et la filonnière, qui était la première propriété de Paul-Louis Courier, qui n'avait jamais pu être vendue pour X raisons, finalement est vendue. Donc, grâce à ça, elle réussit à rembourser pas mal de personnes auxquelles ils avaient emprunté de l'argent. Et elle peut revenir sur Paris avec ses enfants. Et donc là, elle commence une vie de nouveau un peu plus agréable pour elle. Elle peut repeindre, elle reprend des cours, elle retravaille aussi la musique. Et la vie commence à être un peu plus facile. Et voilà que sa mère, qui voyage beaucoup, qui est passée déjà à Lyon où vit sa deuxième fille, à Genève où elle a des amis, le docteur Charles Monnoir et sa femme, elle va à Saint-Gervais pour les eaux chaque année. Voilà qu'un jour, en 1828, un jeune homme se présente pour rendre ses hommages à Madame Clavier. C'est le jeune Théodore Monnoir, qui est donc le fils du médecin Charles Monnoir que Madame Clavier connaissait à Genève. Et lui vient étudier la médecine à Paris parce qu'il n'y a pas d'école de médecine à Genève. Et donc, il vient dire bonjour à Madame Clavier et il rencontre Herminie, jeune veuve de 33 ans avec deux enfants en bas âge. Et il tombe amoureux de cette femme avec la gravité de son visage, avec la passion de la vie qu'il lit dans son visage. C'est vraiment une révélation pour lui. Mais il se méfie un peu de lui, il passe une année à suivre des cours, bien sûr, avec son ami John Bizot de Genève et d'Espine aussi. Et donc, il fréquente la famille Clavier, il revoit Herménie. Et au printemps prochain, se dessine pour Madame Clavier l'Xième voyage à Saint-Gervais pour prendre les eaux, comme on disait. Et avec un arrêt chez les Monnoirs à Mornay, et Herminie vient avec elle. Donc Herminie vient à Genève, vient à Mornay, et Théodore, qui n'attendait que ça, les a précédés pour les recevoir à Genève avec la diligence, les amener à Verrier, ensuite prendre les petits ânes pour monter à Mornay, et dans la maison que les Monnoirs avaient au Mont-Gosse à l'époque. Et pour Théodore, c'est la chance ou jamais de pouvoir se faire comprendre. Et donc, c'est à Mornay qu'il se fait comprendre. Et ensuite, Herminie part avec sa mère à Saint-Gervais, revient à Paris. Et à Paris, de retour avec Théodore, les affaires, plutôt leurs affaires, se développent. Et ils partagent leur amour. Et Théodore suit ses cours, bien sûr, toujours de médecine. Et voilà qu'en décembre, alors que leur avenir semble assez beau et magnifique, voilà qu'un journal annonce qu'à Tours, on a un témoin de l'assassinat de Paul-Louis Courier s'est manifesté 5 ans après l'assassinat. Donc tout recommence. Tout recommence, et c'était en fait une fille de ferme qui était cachée dans les fourrés avec son amoureux, qui avait assisté à l'assassinat de Paul-Louis Courier et qui n'avait jamais osé en parler. Et à un moment donné, quelque chose s'est déclenché en elle. En fait, elle s'est approchée avec son cheval du monument que Herminie avait érigé en souvenir de son mari. Et son cheval a fait un écart. À ce moment-là, elle est tombée. Elle est rentrée à la ferme et elle a dit au patron de la ferme: le cheval est tombé et moi j'ai eu aussi peur que lorsque j'ai vu l'assassinat de Paul-Louis Courier. Et donc du coup, Donc toute la justice se branle. Et là, on prie Madame Courier de venir d'urgence à Tours au palais de justice. Donc elle y va dans des circonstances épouvantables parce que, alors qu'au premier procès, son amant, le laboureur Pierre, et d'autres laboureurs de la propriété on lui avait dit tout de suite, dit, eux, ils étaient à 50 km de l'endroit, donc elle se sentait soulagée et qu'ils n'étaient pas mêlés à l'affaire. Et là, ce témoin qui a vu l'assassinat lui dit que le coup de fusil a été tiré par le garde-chasse et que derrière, il y avait Pierre Dubois, son amant, le frère de son amant, le père de son amant, plus deux ouvriers encore de la propriété. Donc pour elle, c'est un choc épouvantable de voir qu'elle a été trahie, qu'on l'a utilisée en quelque sorte pour des fins personnelles. Et elle arrive dans ce contexte à Tours et cette fois-ci, on l'emprisonne. On pense que c'est elle qui a manigancé cet assassinat et qu'elle a utilisé son amant, qui a utilisé le garde-chasse à son tour pour le tuer. Donc c'est vraiment quelque chose pour elle d'effroyable. Elle se retrouve en prison en janvier, sans chauffage, au secret. Et elle se sait enceinte de Théodore. Mais il n'y a qu'elle qui le sait. Et peut-être Théodore. Et les interrogatoires commencent. On l'accuse justement d'avoir fomenté tout cela. Frémont, donc le garde-chasse, revient vers elle en tant que témoin, parce que lorsqu'il a eu le premier procès, comme il a été déclaré non coupable, on ne peut plus l'accuser après. Donc là, il est témoin, et donc il se permet de charger Madame Courrier pour lui dire qu'elle, elle avait bien voulu se débarrasser de son mari, etc. Donc les charges sont très très lourdes, et elle se défend magnifiquement bien, d'autant qu'elle est aidée par un avocat que lui a envoyé sa mère de Paris, qui est un avocat très, très connu et qui est mal vu de Tours parce qu'on n'aime pas beaucoup les Parisiens qui parlent trop bien de Paris, mais il fait bien son travail en disant « mais vous n'avez pas creusé la possibilité que ce soit quand même le gouvernement qui ait quand même donné l'ordre d'assassiner Paul Courrier, qui était un pamphlétaire un peu dérangeant pour le gouvernement de Charles X en plus ». Et c'est une période très difficile à vivre, d'autant plus que Théodore, lui, apprend que son père est mourant à Genève. Donc, il rentre à Genève rapidement si on peut dire, parce que les diligences à l'époque étaient très lentes. Il assiste à la mort de son père. Il se retrouve avec sa mère veuve, sa sœur. Lui a 23 ans, 24. Il est chef de famille, il s'est herminé en prison, sans savoir ce qui va advenir d'elle, enceinte, et ses cours à Paris qui doivent se continuer pour qu'il ait son diplôme. Il rentre à Paris, heureusement Herminie est finalement blanchie quand même, parce qu'il n'y a aucune accusation autre que celle de celui qui est finalement celui qui a tué, qui est l'assassin, donc ça ne tient pas trop la route. Ceux qui sont un peu gênés, ce sont les deux derniers, c'est-à-dire l'amant, Pierre Dubois, et son frère. Mais son frère, on ne peut plus parler de lui, puisqu'il est mort entre-temps. Donc il n'y a que Pierre Dubois qui a un rôle majeur là-dedans. Que va-t-il advenir de lui? Donc c'est le point d'interrogation. Herminie sort de prison en mai. Il retourne à Paris, elle est enceinte de 6 mois, elle retrouve Théodore et... Maintenant, quoi faire? Parce que Théodore doit suivre ses cours, il a de lourdes responsabilités médicales déjà. Sa mère n'est pas au courant qu'Herminie est enceinte, mais elle est au courant qu'Herminie était en prison, ça fait vraiment très désordre. Et donc, il propose à Herminie d'aller en Italie, chez son cousin Robert Monnoir, qui est aussi un médecin, et qui est là-bas, au nord de Florence, dans une ville qui s'appelle Poggibonsi. Et Herminie y va là-bas pour le temps de finir sa grossesse et d'accoucher. Et Théodore donc poursuit ses cours et veut être avec Herminie pour l'accouchement. Donc il part le plus vite qu'il peut, mais il faudrait savoir aujourd'hui que pour aller à Poggibonsi de Paris à cette époque, il fallait 9 jours. Lyon, après il a pris le bateau jusqu'à Avignon, après une diligence jusqu'à Nice, après une autre jusqu'à Gênes, et après encore une autre jusqu'à Florence. Et tout ça, 9 jours. Il arrive le 23 juin à Poggibonsi le matin, et le petit Charles Monnoir est né le jour même. Alors le problème qui se posait aussi, mais comment faire après ? ce bébé est né en Italie, d'un père suisse, d'une mère française, sans être mariée. Et en plus de ça, à l'époque, les naissances s'annonçaient dans les églises, hein, pas l'état civil. Ouais. Donc voilà leur situation. Donc ils rentrent très vite après à Paris pour pouvoir suivre ses cours. Hermine y revient aussi plus tard, tranquillement. Et l'idée, c'est que Théodore puisse finir ses cours et puis épouser Hermine et rentrer à Genève. Alors, en théorie, tout va bien, sauf qu'en 1932, voilà que le choléra s'abat sur Paris. Et le choléra arrivait de Londres. Paris est tout à coup happé par ce fléau, avec une violence pas possible. En quelques semaines, il y avait des milliers de gens qui mouraient. On était bien le matin, le soir, on était morts, les enfants particulièrement. Les hôpitaux étaient bondés, les infirmiers, les infirmières, tous les bonnes sœurs, tout le personnel disponible était sur le pied de guerre, et Théodore bien sûr. Et donc c'était une période extrêmement lourde, difficile. Je ne sais pas comment Théodore a pu faire le lien avec sa mère et lui dire à un moment donné qu'elle avait un petit-fils, ça je ne sais pas, on ne sait pas si on saura une fois. Mais en tout cas, l'année d'après, après 20 000 morts à Paris du choléra, en 1933, Théodore a son diplôme et Théodore épouse Hermine à l'église Saint-Eustache à Paris. Et ils peuvent arriver à Genève enfin, diplôme en poche, un cabinet qui s'ouvre dans l'appartement qu'ils occupaient à la rue du Soleil Levant, ça vous dit quelque chose peut-être, juste à côté des canons. Et derrière la cathédrale. Et là, Hermine vit enfin une période un peu plus calme, mais très discrète. Elle sait que tout le monde est au courant de sa vie et elle renonce à vivre de sa peinture, ce qu'elle aurait pu faire. Et elle peint que la famille, les amis proches. Et les années se déroule d'autant plus avec plaisir qu'il y a encore un quatrième garçon pour elle et un deuxième fils pour Théodore, qui est donc Paul, un mot noir, et qui est né en 1935. Et le seul retournement de situation qui s'est produit, c'est qu'à un moment donné, elle reçoit une lettre de Paris pour lui dire « J'ai appris que les éditeurs de Alexandre Dumas avaient décidé, ou plutôt Alexandre Dumas, qui écrivait une série sur les crimes célèbres, avait décidé d'écrire celui de Paul-Louis Courier. Et là, vraiment, elle trouve que c'est trop. Parce qu'il avait parlé de crimes dans l'Antiquité ou dans le Moyen-Âge, ça ne touchait plus personne. Mais là, que ce soit encore de son vivant, avec ses enfants, Courier à Paris et sa famille et Théodore, c'était impensable. Donc, Elle délègue le mari de sa sœur, qui était avocat, pour représenter la famille, essayer de négocier à Paris avec les éditeurs pour qu'ils renoncent, pour qu'ils, en payant quelque chose, qu'est-ce qu'on peut imaginer, mais il faut absolument que ça s'arrête. Et donc là, le beau-frère réussit à ne pas faire qu'Alexandre Dumas écrive une fois de plus l'histoire de cet assassinat. Donc, son souci à elle, ce sont ses deux aînés qui sont à Paris, qui sont très bien suivis. Elle leur écrit tous les jours. C'est vraiment pour elle un amour de mère qui se sent tellement responsable pour eux. Et le bonheur pour elle quand ils arrivent de Paris pour les vacances d'été. Et Théodore était extrêmement aimé de ses garçons Courier. Il est très affectueux, ils s'entendent bien. Ils vont au Salève, ils vont à Mornay, ils vont faire des balades, ils vont vivre une vie de famille avec les deux cadets. Et donc c'est pour elle des années apaisées à part l'épisode de Dumas. Mais je ne sais pas si c'est la suite de tous ces problèmes qu'elle a emmagasinés, plus celui de l'Alexandre Dumas pour finir. Elle a, elle souffre d'érysipèle, qui est une maladie qui ronge la peau et qui crée des plaies extrêmement douloureuses et très difficiles à guérir, d'autant qu'il n'y avait pas à l'époque de soins pour ce genre de choses. Et donc Théodore se donne énormément de peine pour la soigner, pour la soulager, lui donnant de l'opium quand elle souffrait tôt. Et finalement, le 13 novembre 1942, elle meurt d'une 10e crise de cette maladie. Et donc elle sera enterrée à Plainpalais, au cimetière du Plainpalais. Est-ce que Herminie vous intéresse? Voilà, c'est ce que je voulais vous raconter un peu d'elle, pour vous faire part d'un caractère assez magnifique, assez libre, et en même temps très droit, et avec des qualités d'artiste magnifique que son premier mari ne lui a pas donné l'occasion de développer. Et je pense que son second mari lui a offert l'amour et la générosité et beaucoup de possibilités de vivre bien à Genève.
Un grand merci, Laurence Weintraub, pour cette description tellement sympathique, vibrante et vivante de son aïeul. Je suis sûr que vous avez des questions, alors n'hésitez pas à lever la main, à intervenir. Peut-être. Oui, alors.
Juste comme ça, vous êtes la descendante de quel garçon alors?
Du troisième d'Herminie et du deuxième de Théodore.
Donc Charles.
Paul. Donc Théodore, Paul, ensuite Paul a eu trois garçons, dont un qui s'appelle Roger. Roger était mon grand-père et Roger a eu un garçon, Jean-Pierre Monnoir, dont Madame Mariella Monnoir est la veuve, et deux filles, et une qui s'appelait Isabelle, c'était ma mère. Et une qui s'appelait Antoinette, qui vit toujours. Voilà.
Oui,
est-ce que c'est exact que la mère de Madame Mounoir, elle est venue à Genève, elle est décédée à Genève?
Oui, tout à fait.
C'est juste. Hein,
exactement. Madame Clavier était oui. Une personne donc extrêmement intéressante aussi, et très envahissante, je crois. Et elle avait un réseau magnifique. Et à Genève, je pense qu'elle connaissait pas mal de monde à Genève. Et elle s'était installée à la Coraterie avant qu'Herminie et Théodore ne viennent eux-mêmes. Mais je pense que c'était en prévision de leur arrivée. Et comme son autre fille vivait à Lyon, c'était quelque part plus proche que de rester sur Paris. Et Madame Clavier est décédée à Genève aussi. Mais après Herminie.
Juste à peu près une année après.
Oui, c'est ça. Oui.
Vous êtes devant les membres de la société de génération. Vous vous en sentez très bien. Est-ce qu'on a ce point-là, monsieur?
Je suis extrêmement curieux des sources. Parce que tu nous as fait une description très détaillée avec des dates, avec des circonstances, avec des caractères aussi. Quelles sont les sources que tu as pu investiguer pour retracer avec autant de vivacité et de curiosité l'ensemble de cette personnalité et toutes les péripéties qu'elle a vécues?
C'est une question vraiment qui me touche beaucoup, Gilbert, parce que, en fait, l'histoire a commencé de l'autre côté de la rue, chez les grands-parents. Oui. En fait, chez mes grands-parents qui habitaient juste là à côté, il y avait toujours un portrait d'Herminie. Et c'était une copie. Et chez ma mère, il y en avait une. Chez ma tante et mon oncle, il y en avait une. Chez mon autre tante aussi. Il y avait partout ce portrait. Mais moi, j'étais attirée par ce portrait. C'est celui que vous avez sur le livre. Et je me suis dit, mais C'était, mon grand-père disait, c'est une grand-mère qui a assassiné son mari, comme ça, a l'air un peu léger. Et puis après, à Paris, je me suis dit, mais j'ai appris qu'elle avait épousé Paul-Louis Courier, que c'était un pamphlétaire, un homme qui avait écrit beaucoup de livres, de traductions aussi, de livres grecs. Donc j'ai commencé à m'intéresser à lui et j'ai lu tous ses livres et après j'ai lu ses biographies. Et ses biographies, alors, étaient très élogieuses sur le personnage, sur ce qu'il avait créé. Et puis sa femme, bon, de temps en temps c'était une gourgandine, de temps en temps c'était une pauvre victime, enfin bref, je me dis ça colle pas, ça va pas ça. Et puis, donc après j'ai été à la Bibliothèque Nationale, il y avait toute la correspondance de Paul-Louis Courier qui avait été offerte à la Bibliothèque Nationale par les descendants de Paul-Louis Courier, dont Madame Laurence Bic, qui a vraiment fait un travail magnifique parce qu'elle a donné à la bibliothèque toutes ses lettres et elle a donné à la bibliothèque également toutes les lettres qu'Herminie avait écrites à son mari et qui était dans la famille Courrier, forcément. Et Laurence Bic, qui est une descendante Courrier, elle a offert tout ça à la Bibliothèque Nationale. Alors, j'étais à la Bibliothèque Nationale et j'ai tout regardé, photocopié, enfin bref, j'ai fait un travail de fourmi. Et puis tout le reste, tu sais, après il faut mettre ça dans un contexte historique, donc ça c'est encore peut-être plus facile parce que tout est à disposition. Et donc j'ai eu le plaisir de venir au musée d'art et d'histoire parce que le vrai portrait d'Herminie se trouve dans les sous-sols du musée d'art et d'histoire et c'est la maison d'édition de Laurence Gudin qui l'a fait ressortir pour pouvoir le photographier et le faire... en page de couverture du livre. Donc après, c'est toujours le problème des biographies. On a les dates, on a l'évolution de la vie, mais après, comment faire pour lier tout ça et puis le mettre dans un contexte? Et là, c'est un peu la fantaisie de pouvoir mettre des petites choses personnelles. Moi, j'ai toujours été sensible à la mode, donc ça m'a fait plaisir de voir quel genre de robe elle pouvait avoir. À l'époque, les chapeaux, le velours, le satin, des choses comme ça. Et puis lui imaginer quand même quelques voisins à Véretz, parce que c'est le village où elle habitait. Donc ça, c'est... On essaie de voir comment les gens vivaient à l'époque, comment on enterrait les morts, des choses comme cela. Enfin voilà, donc c'est comme ça ce que j'ai... Donc finalement, c'était l'idée, c'était de faire sortir Herminie de son cadre.
C'est bien.
Ouais.
Et en parlant de sources, est-ce que vous avez des documents de la liaison entre Herminie et Théodore?
Oui. Alors ça, c'est aussi un autre miracle des circonstances, dans le sens que beaucoup de choses qui étaient chez mes grands-parents ont été après dispatchées, mais beaucoup chez mon oncle, qui était Jean-Pierre Monnoir. Mais par hasard, il y avait les lettres que Herminie avait écrites de la prison qui étaient chez ma mère. Pourquoi ? Je ne sais pas comment les choses se sont passées, mais elles étaient chez ma mère.
Elle vous attendait ?
Elle m'attendait, oui. Herminie a écrit des lettres de la prison Alors, elle ne pouvait pas écrire directement à Théodore, puisqu'il était en train de venir à Genève. Donc, elle écrivait à John Bizot, qui était le confident, l'ami. Et lui faisait le lien avec Théodore à Genève et avec la mère d'Herminie qui était à Paris. Donc ces lettres, elles existent.
Mais vous n'avez pas les lettres de Théodore?
Si.
Aussi. Notre association de Genève Humanitaire, Centre de Recherche Historique, essaye d'étudier les fondateurs de la Croix-Rouge, certes pour leur action, mais aussi pour leur personnalité. Qui étaient-ils? Quels étaient leurs horizons sentimentaux, spirituels, religieux, leur relation avec un milieu, etc. Et leurs origines. Alors, naturellement que pour Théodore Monnoir, on est très très pauvre, en tout cas dans les sources officielles, on a extrêmement peu sur Théodore Monnoir. Alors, les travaux que vous avez menés vont nous permettre de...
Je crois qu'une explication, c'est qu'il travaillait énormément. Oui. Énormément. Et en plus de ses consultations et de son travail à l'hôpital, il a participé, ça vous savez mieux que moi, à différentes sociétés d'utilité publique. Et ça, c'était peut-être le peu de temps qu'il avait, parce qu'il avait des enfants en bas âge, en plus, après la mort d'Herminie. Il avait la responsabilité de deux autres fils d'Herminie qui étaient encore à Paris, qui étaient adolescents, qui avaient besoin aussi de soutien. Et puis après, il s'est remarié donc avec Mademoiselle Jarvis, et il a eu trois enfants encore avec elle. Donc c'était une famille nombreuse, et puis quelque part, je crois aussi qu'il faut reconnaître, c'est presque, c'est la modestie, c'est la discrétion de Théodore. C'était un homme discret, vraiment.
Il passait pour être discret, mais spirituel.
Drôle.
Très ouais, drôle. Ouais. Et puis de temps en temps, caustique.
Caustique.
Ah oui, il avait ouais. un talent oratoire raffiné. Mais d'autres questions, s'il vous plaît. Oui.
Est-ce qu'on sait pourquoi les deux grands ne sont pas venus à Genève vivre avec eux?
Oui, tout à fait.
Maintenant, est-ce qu'on sait pourquoi?
Oui, on sait pourquoi. Enfin, ils sont venus que pour les vacances, mais c'était les enfants courriers. Ils avaient leur carrière à faire en France. L'aîné était à Saint-Cyr, avec une carrière militaire devant lui. Le deuxième voulait faire Saint-Cyr, mais n'a pas pu le faire parce qu'il n'a pas réussi les examens d'entrée, je crois, tout simplement. Il s'est dirigé après vers la marine. Mais il y avait une double raison, c'est que c'était des Français. Leur père était très connu et ils avaient une bourse pour faire leurs études. Et le problème, c'est qu'ils ont fait des études exceptionnelles au point de vue niveau, comme on dirait, Saint-Cyr a toujours été une école prestigieuse. Mais leur carrière était tracée d'avance, pour autant qu'ils aient une bourse, parce qu'en fait, il n'y avait pas d'argent dans la famille courrier. Et en fait, Herminie n'avait même pas la possibilité d'aller voir à Paris, ce qui serait impensable aujourd'hui. Mais donc, ils seraient venus à Genève. Je ne sais pas s'ils auraient pu devenir Suisses, d'ailleurs. Question encore intéressante pour les historiens genevois. Mais je pense que leur vie était là-bas.
On ne devient pas Suisse, on devient genevois.
À l'époque, on était Suisse, n'est-ce pas?
Oui.
Donc voilà, les deux fils aînés ont des descendances et que j'ai eu l'occasion de connaître aussi un peu par mes recherches. Et justement, le portrait qu'Herminie a fait de son mari, Paul-Louis Courrier, quand il était très malade, appartient à Madame Bic et c'est elle qui m'a permis de le voir et de le photographier pour le mettre dans le livre encore.
Et il reste beaucoup d'œuvres d'Herminie?
Alors ça, c'est un autre sujet justement. Il y en a dans notre famille, il y en a. Et il y en a... alors il y aurait des recherches à faire parce que j'ai heureusement la liste de tout ce qu'elle a peint, qui a été fait par son fils. Donc tout ça est connu, mais ce sont dans des familles. Et je parlais à Madame Desvlais, je crois, de la famille Bizot, que j'ai essayé de contacter, de joindre, mais je n'ai trouvé aucune descendance encore. Et il y a des tableaux que Herminie a fait de la famille Bizot.
Elle voilà. Les signait.
Elle signait HC.
HC, oui.
Oui, je crois que c'est ça. Voilà.
Oui, monsieur.
Je vais ajouter juste quelque chose à cette réponse. Oui, il y a un certain nombre de tableaux de Dominique Noir sous ce nom qui sont connus, signés, et elle a même une cote assez élevée en salle des ventes, puisque la qualité de son travail s'apparente à celui de Madame Digelois.
Donc, on a aussi des œuvres signées oui. Herminie Monnoir.
HM.
Mais Herminie, pardon, excusez-moi, oui, absolument. Et notamment l'étude d'Agent à Paris, je peux en témoigner, parce qu'ils ont donc vendu à des prix conséquents. Parce que bien qu'elle n'ait pas une production importante, qui justifie généralement une partie du prix pour un artiste,
Théodore Monnoir était aussi connu au sein du comité comme étant probablement le seul qui était très familiarisé avec la langue anglaise et la culture britannique.
Tout à fait.
Parce qu'il avait fait un stage.
Une partie de ses études à Édimbourg.
Mais est-ce que Herminie était aussi familière de la langue anglaise ou est-ce que.
Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Ça, je ne pourrais pas vous répondre. À Paris, est-ce que ça faisait partie de son éducation, peut-être? En tout cas, je ne la vois pas dans un contexte où elle aurait... Elle était cloîtrée en Touraine.
Oui, c'est impressionnant.
Elle était cloîtrée en Touraine. En tout cas, là, non, mais peut-être... peut-être qu'à Paris, elle a eu l'occasion, avec une mère très, très mondaine, qui devait recevoir aussi... D'un autre côté, c'était des périodes difficiles parce qu'il y avait la guerre. Les Anglais étaient des ennemis,
Bon, c'était des ennemis qui ont rétabli Louis XVIII.
Absolument, donc, mais du temps de la jeunesse d'Herminie, oui, avant qu'elle n'aille en Touraine, c'était la guerre.
Et est-ce que le père du second fils, le fameux laboureur, dont on aimerait bien connaître les pectoraux en plaques de chocolat, etc. et on a eu des nouvelles, il a voulu exercer ses responsabilités de père ou il a disparu dans la nature?
Rien ne vous autorise à dire que c'est le père, monsieur.
Ah, pardon. Oh là là. Il y avait encore un autre homme.
Il y avait le mari.
Oui, mais le mari, on ne le voyait pas très souvent. Enfin,
mais peut-être assez.
Oui, c'est vrai, il n'y avait pas de code ADN.
Non,
etc.
En fait, il y a toujours une suspicion, c'est vrai. La suspicion est là et la raison, elle peut être envisagée. Il n'y a aucune preuve. Donc la branche qui descend de ce deuxième fils a aussi des suspicions, mais pas les Monnoirs, pas les enfants Monnoirs.
Oui, d'accord. La page était tournée. Mais ce comportement libre d'une grande bourgeoise, parce qu'elle appartenait quand même à une... La grande bourgeoisie. Oui, est-ce que dans la société française de post-révolution, c'était un comportement qui était reçu, qui était admis?
Non.
Ou non?
Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que vraiment c'est quelque chose qui a émané d'elle, qui était salvateur pour elle quelque part. Mais je pense que la bourgeoisie parisienne ne l'aurait pas accepté sous cette forme-là. Oui. Peut-être alors, l'aristocratie.
Oui. Mais alors, en parlant d'acceptation, est-ce que vous avez eu des échos de l'accueil d'Herminie à Genève? Vous nous avez dit qu'elle était à la rue du Soleil Levant, où il y a une très belle vue, mais on a toute la bise, il fait un froid terrible, puis on est réveillé par les cloches de Saint-Pierre tout le temps. Est-ce qu'elle a pu s'intégrer dans la société genevoise, ou on sait quelque chose?
Écoutez, j'ai comparé ça à Liszt et Madame Dagou, qui étaient là en même temps. Et en fait, vous le savez aussi bien que moi, c'est Liszt était accueilli parce que c'était un pianiste, qu'il était brillant, qu'on aimait bien l'avoir chez soi. Mais elle n'était pas acceptée. Alors, ils n'étaient pas mariés. Mais le couple était accepté d'une certaine élite intellectuelle. Je pense que Herminie, je pense qu'elle a été acceptée. Parce que... Disons, le cercle de la famille Monnoir était assez restreint, était connu bien sûr, mais Herminie a volontairement voulu être discrète et ne pas s'exposer. Donc, et Théodore travaillait tellement que ça leur convenait, ce mode de vie. Mais je pense qu'on les connaissait. Et je pense qu'elle était reçue quand même. Mais je n'ai pas de témoignages d'autres familles donc, qui auraient pu écrire des lettres désobligeantes sur elle. Ça reste encore à trouver.
Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres...
Est-ce que ça n'a pas créé des problèmes à Genève? Elle était catholique.
Ah, ça, c'est une question excellente.
Puis ils ont des enfants.
Non, c'est plus simple que ça. Je crois vous avoir dit un peu rapidement qu'ils s'étaient mariés à Paris, à Saint-Eustache, qui est une église catholique. Donc là, c'est vraiment intéressant. Je pense que c'est de la part de Théodore une noblesse, quelque part. Parce que je ne sais pas s'il était vraiment attaché à l'église protestante à Genève ou pas, mais sa famille, certainement. Mais quelque part, pour Herminie, qui avait, elle, une éducation catholique, des enfants catholiques qui étaient malmenés par l'assassinat de leur père, qui était une mère qui tenait mordicus à son monde catholique et mondain. C'était un sujet de réflexion. Si elle avait voulu se faire devenir protestante pour Théodore, c'était compliqué à Genève à l'époque. Il fallait faire un monde honorable et puis il fallait que les enfants deviennent protestants. Et voilà qu'un était déjà né catholique en Italie. La situation était vraiment pas facile. Je pense que Théodore a simplifié les choses. Ils se sont mariés à l'église catholique et ils sont arrivés à Genève. Et après, ils vivaient une vie discrète. Théodore était un excellent médecin. Il avait un réseau excellent dans Genève, et on le voyait très, surtout comme un très bon médecin et un homme très bien. Donc, voilà. J'espère que ça suffit.
Il se remarie peu de temps après.
Il se remarie avec une protestante.
Non seulement une protestante, mais la fille d'un théologien oui. protestant de New York.
Absolument.
Je crois même que c'était du protestantisme rigoureux.
Oui.
Alors, qu'est-ce qui se passe pour les enfants?
Bonne question. Alors ça, c'est la partie que vous allez mieux connaître, monsieur.
Effectivement, là, il y a des intrigues. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'à la fin de sa vie, Théodore a une controverse terrible avec un de ses confrères parce qu'un hôpital s'est ouvert pour les enfants et pour les enfants pauvres aussi. Mais à la condition que les parents produisent un certificat d'un pasteur que c'est un enfant d'une famille protestante. Et alors, se déclenche dans le monde médical genevois une très belle controverse. Son confrère et adversaire est un Gautier. Et alors, Théodore Monnoir publie, mais c'est 3 mois avant sa mort, il publie 2 brochures. En faveur d'un autre hôpital pour enfants qui va se lancer, dont son fils, il avait un fils Paul, hein, je crois,
oui.
et dont son fils Paul prendra le relais ensuite, et avec la consigne alors, express que l'hôpital soit ouvert pour tous les enfants pauvres, quelle que soit
leur religion
leur milieu social et leur nationalité.
Ah, oui,
c'est-à-dire qu'on pouvait accepter des enfants qui venaient notamment de Savoie ou du Alors ça, c'est une position de neutralité médicale qui nous a beaucoup intéressés. Maintenant, on comprend mieux ce concept-là, parce que cette neutralité médicale, on va la retrouver comme la pierre angulaire de la Croix-Rouge internationale. On peut véritablement dire que la neutralisation tant des blessés que du personnel sanitaire. Et quand on dit neutralisation, ce n'est pas un terme militaire où on dit qu'on a liquidé un ennemi. Neutralisation, c'est qu'on considère l'être humain comme neutre par rapport à toute une série de paramètres. Et c'est vraiment ça qui va faire le succès de la Croix-Rouge internationale. Et on peut penser que Théodore Monnoir a été un des avocats les plus ardents de ce concept-là. C'est intéressant de voir que les 4 autres fondateurs sont en tout cas eux, et des protestants, et des chrétiens, non seulement socialement, mais très engagés dans l'Église, que ce soit l'Église officielle ou que ce soit l'Église du Réveil. C'est d'ailleurs un paradoxe très intéressant de voir que les fondateurs sont des chrétiens convaincus et pratiquants, mais qu'ils posent comme un des principes clés la neutralité du personnel soignant que des blessés. Il y a là quelque chose qui était tout à fait prémonitoire.
Oui.
Bon, ils ont choisi la Croix-Rouge, ce n'était pas une très bonne idée, nous disent les délégués du CICR, parce que dans beaucoup de pays, la Croix-Rouge est assez mal reçue. Mais enfin, ça, c'est... ils ne pouvaient pas le savoir.
Tant pis pour eux.
Oui.
Ils
ne
pouvaient
pas le savoir.
Alors donc, vous, il n'y a plus de question d'intervention. Alors dans ce cas-là, vous savez que vous avez maintenant le privilège de demander à Laurence Winthrop de signer les livres que son éditrice a apportés, c'est bien juste?
Oui, ils sont là-bas.
Et puis, en même temps, nous avons un petit bulletin de la Société de Genève Humanitaire. Alors, ce petit bulletin, on vous l'offre, nous on fait de la promo pour notre association, et puis on a choisi peut-être un peu lâchement de prendre le beau portrait. Mais rassurez-vous, on ne dit rien du tout. On dit rien du tout. Oui, on dit juste... c'est pas... Alors, j'ai marqué ça il y a 3 jours, ça s'est fait à toute vitesse. Alors, vous pardonnez, j'ai marqué « Qui est cette beauté fatale ?» Alors, il y a plusieurs dames de mon entourage qui ont dit « Elle n'est pas belle. » Mais c'est un homme qui est... Voilà. Veuve, elle avait été inquiétée à la suite du décès suspect de son premier mari. Elle va séduire un jeune et brillant médecin de 10 ans, son cadet. C'est en Toscane qu'il ira mettre au monde leur premier fils, 4 ans avant leur mariage. Elle entraînera ce jeune voix bien calviniste devant l'hôtel catholique de Saint-Eustache à Paris pour sceller leur union. C'est bien ça.
Et puis,
je connaissais un petit peu Herminie. Et puis, non, j'avais pas lu le livre. Et puis, derrière, alors on met le portrait du jeune homme qui est tombé dans les raies de cette femme superbe, Théodore Monod.
Voilà. Pas de photo du laboureur.
Alors, la bourrée, non, c'est pour la prochaine édition, alors ça.